Vous écoutez la radio africaine au Canada, Mucho. Je m'appelle Marat Naïmana et je suis un jeune journaliste, l'animateur de votre émission Impact. Nous avons reçu de nombreux invités et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une personne qui contribue grandement à notre développement. Nous attendions cette occasion depuis des années de pouvoir discuter avec cette personne. L'honorable Michaëlle Jean est avec nous. Elle a été la gouverneure générale du Canada de 2005 à 2010 et troisième secrétaire générale de la francophonie de 2014 à 2018. Honorable Michaëlle Jean, bienvenue sur Mucho Radio. Notre mission est de recueillir des témoignages authentiques de diverses communautés d'ascendance africaine à travers le Canada et de constituer des archives vivantes sur la résilience, la culture. Nous croyons que ce récit est essentiel à la préservation culturelle, au développement social et à l'autonomisation économique. Vous êtes une ancienne journaliste. Pensez-vous que mettre en place une radio des descendants africains pour raconter nos histoires de notre manière à travers le Canada est important?
Je crois qu'il est important d'avoir un espace qui permette à un large auditoire de prendre connaissance de ces réalités qui nous concernent en tant que communauté afrodescendante dans notre vaste diversité. Et je crois que les Canadiens et les Canadiennes ont tout avantage à peut-être se familiariser à ces enjeux qui sont les nôtres, nous afrodescendants, à notre apport aussi, nos nombreux apports à la société canadienne, à la diversité de nos points de vue. Et moi, je suis ravie d'apporter ma voix à cet espace que vous avez ouvert. Je vous en félicite.
Merci beaucoup. Le 24 janvier est la journée internationale des personnes africaines et de la afrodescendance africaine. Quel est le rôle de la culture pour créer un dialogue et créer la paix dans le quatrième mur qui est de créer l'invisible le visible?
Quand on dit le quatrième mur, rendre l'invisible visible, c'est une référence, à, je dirais justement, à une expression artistique qui est celle du théâtre et du cinéma. Le quatrième mur, c'est cet espace qu'on ne voit pas. Nous sommes, et c'est cet espace auquel il faut prêter attention, cet espace qu'il faut révéler au regard des autres. Et je pense que parler de l'éradication de la discrimination raciale, c'est faire justement cet exercice-là. C'est de parler en toute vérité, parce que la vérité est essentielle pour aller de l'avant. On ne peut pas, le déni fait partie du problème. Je sais que pour certains, il est plus aisé, nous l'avons vécu notamment au Québec, avec le Premier ministre du Québec qui, lors du dernier sommet pan-canadien des communautés noires, a affirmé que bon, voilà, son gouvernement n'y participerait pas, n'y prêterait pas attention, parce que pour lui, le racisme systémique n'existe pas au Québec. Or, ce déni-là devient une partie du problème, et un problème sérieux. Nous, notre exercice a été plutôt de faire comprendre, de faire savoir, de dire haut et fort en quoi le racisme systémique peut être dévastateur dans tous les secteurs, dans tous les milieux, que ce soit dans le milieu de l'éducation, dans le milieu du travail, au niveau du système de santé, au niveau politique. L'exclusion est toujours un déficit considérable, qui est un déficit de participation, de synergie, de possibilités, de développement, et donc évidemment un déficit pour la démocratie. Donc c'est formidable quand on se rassemble ainsi pour justement lever le voile sur ce quatrième mur, rendre l'invisible visible, puisque dès lors qu'on dit que le problème n'existe pas, ce qu'on cherche à faire, c'est à nous rendre invisibles, nous rendre inaudibles. Or, chaque sommet est là pour justement faire l'exercice contraire. C'est de venir en très grand nombre pour dire clairement, dans les moindres détails, ensemble, ce qu'est le racisme systémique, comment il nous affecte, comment il est dévastateur pour nos vies, comment nous pouvons agir aussi ensemble pour le faire entendre et pour le combattre. Parce que c'est un vrai combat. C'est l'un des combats, je pense, les plus importants pour nos sociétés aujourd'hui, alors que nous vivons à une période où la haine prend le dessus, où la cruauté s'impose. Nous regardons l'état du monde et cela est navrant, cela est désespérant de voir à quel point la haine est au premier plan et est décomplexée, complètement décomplexée. Donc il faut agir à cet égard et c'est ce que la Fondation Michaël-Jean permet aussi, nous ne sommes pas seuls, mais permet, je dirais, à un niveau national, là, oui, ça c'est notre avantage de pouvoir rassembler aussi largement tous ceux et celles qui portent des combats pour l'éradication de la discrimination raciale. Toutes les organisations, et nous sommes très, très, très nombreux et nombreuses.
En parlant de la Fondation Michaël-Jean, vous, honorable Michaël-Jean, supportez plusieurs projets de jeunesse. Quel est votre message pour la jeune génération de ne jamais abandonner et surtout la jeunesse d'afrodescendance qui fait face à une très haute hausse de problèmes d'emploi?
Alors, je dirais que d'abord, les commentaires des jeunes, d'un sommet à l'autre, et le nombre est grandissant. Vous voyez, sur 1500 personnes, ils étaient 625 à Montréal cette année, et toujours de dire ça a brisé notre isolement. Nous avons pu, et d'ailleurs, le premier jour du sommet est toujours le sommet des jeunes. Donc, sur 3 jours, le premier jour est toujours celui organisé par les jeunes, pensé par les jeunes, rassemblant les jeunes et tous les autres qui souhaitent entendre la jeunesse, et nous sommes très très nombreux, et avec une qualité extraordinaire, avec créativité, avec une parole frontale, juste, éclairée, très, je dirais, très éloquente. Le temps que j'ai passé, par exemple, au sommet de Montréal à écouter les jeunes, j'ai trouvé ça épatant et les jeunes sont revenus aussi à la fin de cette première journée du sommet avec des recommandations. Et la suite du sommet, et les jeunes, ils sont aussi, hein, avec tous les autres délégués pour se faire entendre et pour entendre également, pour se situer et avoir aussi la possibilité de recueillir des arguments. Des arguments, je dirais, percutants, pour nommer aussi leur réalité et pour avancer dans ce mouvement, parce que c'est un mouvement, ce n'est pas un moment, ce n'est pas un événement, c'est un vrai mouvement. C'est ce que nous avons, c'est ce que nous sentons et c'est la réalité. Donc le prochain sommet qui va se tenir à Winnipeg va célébrer ce mouvement. D'autant plus que c'est la première fois, écoutez, que je le disais tout à l'heure, que gouvernement nous invite. C'est le gouvernement du Manitoba, le Premier ministre Wapkinyu, qui est le seul, je dirais, leader autochtone à la tête d'une province au Canada, dont le vice-premier ministre et ministre de la Santé est afro-descendant. Le ministre du Développement et des Ressources naturelles est aussi afro-descendant. Donc, je pense que le Manitoba envoie un signal très, très fort au reste du Canada, parce que dans aucune autre province, on a cette présence aussi forte, je dirais, d'afro-descendants et à un niveau décisionnel très, très élevé, et aussi un premier ministre autochtone. Et le sommet de Winnipeg va permettre aux Autochtones et aux Noirs de prendre parole ensemble pour parler de l'impact dévastateur de la discrimination raciale. Parce que Statistique Canada le révèle avec des données très précises, les communautés au Canada les plus affligées par la discrimination raciale sont les communautés autochtones et les communautés noires. Donc il est normal que dans une ville comme Winnipeg, qui est la ville, je dirais, où on retrouve la plus importante présence autochtone, et aussi des communautés noires qui sont très, très, très ancrées et dans toute leur diversité, ce sera un moment dans l'histoire du Canada de nous entendre dire ensemble à quoi ressemble, hein, ce poison qu'est le racisme systémique.
Pouvez-vous supporter Mucho Radio et les jeunes journalistes pour, comme vous dites, partager ces histoires percutantes et promouvoir, préserver, partager et changer le narratif?
Je pense qu'il me fait très très plaisir, je vous le dis sincèrement, il me fait très plaisir d'être sur vos ondes en ce moment. Je veux vous féliciter pour cet espace de parole que vous ouvrez, et vous le faites avec beaucoup de talent, j'aime beaucoup vos questions, j'aime beaucoup l'intelligence que vous portez à l'antenne, que vous faites entendre, et j'espère que d'autres comme moi, d'autres personnalités afrodescendantes, et pas seulement, je pense que c'est bon d'interpeller aussi ceux qui ne sont pas afrodescendants sur les questions qui concernent notre condition à nous comme afrodescendants au Canada. Et je dirais aussi que, par exemple, à la Fondation Michael Jean, nous sommes déterminés à soutenir les initiatives qui sont portées par des jeunes comme vous. Par exemple, nous avons tout un programme qui est dédié aux jeunes entrepreneurs noirs au Canada et pas seulement. Aussi, il s'ouvrira aux jeunes entrepreneurs autochtones, mais nous avons mis vraiment l'accent sur les jeunes entrepreneurs noirs et nous avons deux cohortes et nous arrivons aussi avec des fonds qui permettent de vous aider à pérenniser vos initiatives entrepreneuriales, en entrepreneuriat social, créatif et autres. Et ça, pour nous, c'est une priorité. Nous trouvons ça extraordinaire de voir le leadership que cela crée. Nous aimons vous voir vous épanouir. Nous aimons voir vos initiatives entrepreneuriales prendre racine, se renforcer. Et pour nous, voilà, un tel impact est très, très, très gratifiant. Il va dans l'esprit même et la raison d'être de notre action et de notre mission.
Quels sont vos vœux de fin d'année pour l'année 2026 pour la communauté descendante africaine au Canada?
J'estime que nous, les communautés afrodescendantes du Canada, sommes, je dirais, un joyau, un cadeau pour ce pays. Ce que nous avons à offrir, ce que nous offrons tous les jours, est crucial pour le développement de ce pays. Nous exclure, c'est créer un immense déficit dans ce pays. Un déficit vraiment de perspective, un déficit de possibilités, de synergie, un déficit de développement, tout ce qui est essentiel, au fait, pour la prospérité d'un pays. Donc, il est irrationnel d'exclure. Le racisme systémique est totalement irrationnel. C'est se défaire d'hommes, de femmes, de jeunes, de communautés qui ont tant à offrir et qui sont là, actives, présentes tous les jours et qui produisent aussi énormément tous les jours. Donc, c'est le discours qu'il nous faut tenir avec véhémence, c'est-à-dire avec force. Dire que nous exclure, c'est se priver d'un joyau. C'est irrationnel. Le racisme est totalement irrationnel. Parce qu'au fait, ce que nous avons à offrir, ce que chacune d'entre nous, dans la diversité de cet humanisme que nous avons en partage, est essentiel. Sans nous, rien ne peut aller de l'avant aussi bien que ça l'est avec nous. Et de ça, il faut le clamer, il faut le dire avec aisance, il faut le dire avec conviction, parce que rien n'est plus juste que cela, rien n'est plus vrai que cela. Donc, de sorte à isoler, mais vraiment isoler, ceux et celles qui tiennent ce discours de la discrimination raciale, ceux qui nous excluent, ceux qui nous empêche, je dirais, de faire acte et contribution juste et je dirais, oui, pourquoi pas, profitable à une société qui se veut en santé et qui se veut prospère. Parce que ce combat que nous portons, nous arrivons à le faire avec beaucoup de force. Et à un niveau national. Et ça, je sais que je suis capable de faire ça. On en a fait la démonstration Et je trouve extraordinaire que des gens aient répondu en aussi grand nombre et on a senti ensemble la force que nous représentons. Donc il faut garder ce rythme-là, il faut garder cette aisance, cette conviction et revenir et continuer d'être là et revenir en force aussi à Winnipeg après Montréal.
Oui, hâte du 18 au 20 en 2026. Merci
Merci.
infiniment.
C'est moi qui vous remercie. Donc 18 au 20 septembre 2026, je vous revois à Winnipeg.
Oui, je serai là avec Mouji Radio.
Merci, merci à Mouture Radio. Merci beaucoup.